L'Atelier Podcast, ça part. Re-bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du Tailgate Podcast. Mon nom est Nicolas Verrou et je suis accompagné pour la deuxième semaine de suite par mon expert de la NCA, M. Étienne Courteau. Bienvenue mon cher.
Yo, bienvenue.
C'est drôle parce qu'on vient d'enregistrer pendant 15 minutes puis on s'est rendu compte après que la carte SD était pas dans la machine. Fait qu'on est en train de run it back le podcast, les gars.
Prise 2.
Yes. Édition du 23 janvier 2025. Cette semaine, on va parler notamment du NCAA National Championship. On va profiter de la présence de Crutz. On va faire un petit portrait aussi de ce qui s'en vient dans la NCAA dans les prochaines semaines en vue du draft de la NFL. Évidemment qu'on va parler de ce qui s'est passé la semaine passée dans la NFL. 4 crazy games la semaine dernière. Fait qu'on va regarder ça. Faire le parallèle aussi en même temps avec les mouvements de personnel dans la NFL après ces matchs-là en playoff. Les équipes, des fois, on voit que ça commence plus à se dessiner pour l'avenir. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. On va parler de ce qui arrive aussi dans la NFL la semaine prochaine. On a deux gros match-up pour voir qui s'affrontera au Super Bowl. Et on va faire un petit bloc plus mollo à fin où on va faire nos prédictions pour les Awards of the Year parce qu'on a connu les nominés cette semaine. Alors, M. Courteau, National Championship ce lundi dernier qui opposait Ohio State et Notre Dame. Tes impressions sur le match?
Ben, la game en elle-même a quand même été décevante. Là. Regardez le score et vous dites que ça a quand même été close. Là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment une game parce que là, Notre Dame est allé scorer sur leur première possession du ballon. Quand même une très très longue drive en attaque. Là, une affaire comme genre 9 minutes. Là, de quoi qui a comme pas rapport. Puis après ça, Ohio State a repris le ballon. Puis on scoré sur les 3 possessions suivantes. Donc là, à ce moment-là, ça a été difficile un petit peu plus pour Notre Dame. Mais en deuxième demi, Ohio State a un peu levé le pied de la pédale. Puis Notre Dame ont pu revenir un petit peu, mais malheureusement, le mal était quand même fait. Là.
Du côté de Ohio State, la semaine dernière, on avait tous prédit sur le podcast quand même une victoire concluante de Ohio State. C'est exactement ce qui s'est passé.
Ouais. Ben, je pense que c'est ça. La meilleure équipe a gagné. Là, honnêtement, visiblement, la défaite contre Michigan, ils ont pas trop affecté parce que tu regardes en série et ils ont dominé tout le monde. À part Texas, c'est toutes des victoires qui ont cover leur spread qui était quand même assez gros. Fait que non, je suis pas. Tu sais, la deuxième demi a été bonne, mais c'est ça. Après la première demi, il n'y avait plus vraiment de game, là, malheureusement. Là.
C'est ça. Jeremiah Smith, nom qu'on avait dit la semaine passée à retenir, a bien performé.
Ouais.
Lui, selon ce que tu nous as dit la semaine dernière, encore une fois, il restera encore 2 ans college potentiellement. Fait que sont en voiture, eux autres, ouais, peut-être pour les prochaines années.
Hein. Ouais, ça va être de voir si peut-être qu'il y a une université qui va essayer de le ramasser sur le portal. Mais ça va coûter très très cher. Là. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir l'argent. Ben tiens, en même temps on dit ça, puis peut-être que oui, mais j'ai l'impression qu'il va rester avec Ohio State. Puis de toute façon, Ohio State vont probablement essayer de se trouver un QB eux autres aussi. Fait que
par le portail probablement eux autres.
Probablement, oui. Je sais pas trop leur QB chart ressemble à quoi, là, mais ce qu'on sait, c'est que Will Howard va se déclarer visiblement avec la victoire. Là, fait que ça sera probablement pas Will Howard. Ça n'a pas été encore confirmé, il l'a pas encore dit, mais d'après moi, il va se déclarer. Là.
Exact, exact. Ça m'amène à te demander, c'est la première année qu'on avait des playoffs à 12 équipes dans la NCAA. Peut-être tes impressions en tant que fan quand même assez finis.
J'ai quand même aimé ça, honnêtement. Je trouve que ça apporte plus. T'sais, on voit des équipes qu'on voit peut-être moins. Que d'habitude, tu sais, mettons, tu penses à Boise, Arizona State, c'est des équipes qu'on voit moins. Mais j'ai trouvé que pour les positions 1 à 4, c'est extrêmement désavantageux de ne pas avoir une game à maison par rapport aux seeds 5 à 8 qu'eux autres accueillaient la première ronde chez eux. Parce que de 1 pour les universités, ça leur fait quand même une belle passe de cash. Puis, juste l'atmosphère de jouer chez vous. Tu sais, tu regardes Penn State avec le whiteout, Ohio State qui ont accueilli Tennessee dans le froid. Fait que ça, c'est des avantages pour ces universités-là, tant sur le terrain que financièrement. Fait que j'aimerais ça peut-être pour le futur, voir 1-4 peut-être accueillir un match de série à la maison. Parce que la réalité, c'est que 5-8 après ça, sont allés sur la route. Sont allés comme ils étaient visiteurs.
Dans un stade neutre.
Fait que les équipes 5-8 ont toutes battu les équipes 1-4. Fait que peut-être que pour le futur, la deuxième ronde, j'aimerais ça la voir dans les stades des équipes qui ont fini 1-4.
Ouais.
Puis, aussi, tu sais, il y a beaucoup de monde là qui parlait que Boise et Arizona State, tu sais, clairement Penn State et Texas, c'était des meilleures équipes qu'eux. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas gagné leur championnat. Fait que ça a été bâti pour que 1-4 soit les gagnants de division, de conférence. C'est ça, mais non, je pense qu'ils vont encore retaper le format, mais je trouve qu'à deux équipes, là, ça, pour une première année, ça a vraiment été le fun. Puis tu sais, la durée aussi entre les matchs, tu sais, le fait que la première ronde a été avant Noël, la deuxième le 1er janvier, après ça, il y a eu encore une pause de 8 jours, après ça, encore 10 jours. Ça, j'ai quand même aimé ça aussi. Tu sais, le fait que, tu sais, dans NFL, c'est essentiellement chaque semaine, mais là, quand il y a des pauses, il ne faut pas oublier non plus que c'est des étudiants, là, fait qu'ils ont des fins de session, des débuts de session, fait que j'ai trouvé ça
dans
bien.
Dans leur seul cours de théâtre, il faut qu'ils fassent leur travail final.
Ouais.
Mais moi aussi, j'aime bien que ça s'apparente à un format NFL de playoff.
Ouais, aussi.
Ça montre les gars qui ont du juice, tu sais, ça montre les gars qui ont le toughness pour se rendre jusqu'au bout. Puis être un gars qui va performer toutes les playoffs pour finalement aller gagner un National Championship. Mettons que t'es lights out, là, ça fait monter ton stock en call-in. Semaine passée, on a parlé d'Abdul Carter qui a son stock a monté vraiment en playoffs.
Ouais, on a découvert pas mal de gars. Là, même chez Ohio State, là, Emeka Ibuka, Jack Sawyer aussi,
qui a été défensif. Lui, il a gagné du stock là, avec son play l'année passée.
Caleb Down, le corner aussi. Hein. Fait que non, c'est ça, il y a une couple de gars que ça l'a vraiment, je pense, aidé leur stock d'avoir cet exposure-là.
Exact. Fait que là, la suite avant le draft pour les gars NCAA, c'est pour ceux qui participent le Senior Bowl. Le Senior Bowl, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un peu un All-Star Game des gars qui ont joué leur dernier match en college, d'où l'appellation senior. Tous des gars qui vont sortir, j'imagine, au draft, probablement.
Ouais, c'est des gars qu'on parle, pas exemple des choix top 10, là, mais c'est des gars, habituellement, que leur range est deuxième ronde, puis 32 à 15. Fait que je dirais, c'est, mettons, à peu près 64 à 15.
All right. Là-dedans, mettons que je me prime, je l'écoute en tant que fan de la NFL, puis je me dis, hey, y a-tu un gars là-dedans qui pourrait être un sneaky good pick? Peut-être NFL. C'est quoi les noms que je vais regarder?
J'ai quelques gars, là. Tantôt, on parlait des gars qui ont eu un bel exposure avec leur playoff. Cam Scalabou, c'est un gars qui va être là. Puis que lui, il a été invité dû à ses performances en playoff. Fait que petit running back, c'est pas un gros gars, puis c'est pas un coureur, mettons comme un Saquon Barkley, mais c'est un gars très physique qui va aller chercher ses verges. Sinon, je regarde un QB, mais qui va pas sortir, exemple, en deuxième ronde, qui risque de sortir quand même tard, mais que je suis content qu'il ait été invité par le Senior Bowl. C'est Seth Hannigan, le QB de Memphis. Sûr, tu sais, qui joue dans une conférence moins forte, mais un bon QB là, qui a dominé sa conférence depuis 2 ans. Puis c'est pas un gros gars, c'est pas un gars qui court beaucoup, mais quand même un bon bras pour sa shape là. Sinon, dans les gars que j'ai noté, Gunnar Helm, le tight end de Texas, un gros bonhomme là, je pense un gars de 6 pieds 5, qui est pas non plus un pass catcher à la Carl Pitts ou Carl Pitts, ça reste discutable, mais en tout cas pas. T'sais, un gars qui peut vraiment plus bloquer, mais quand même, t'es capable d'y envoyer le ballon quand il y a de besoin. Sinon, Tess Johnson, le wide receiver d'Oregon, fun fact, qui est le frère de Bo Nix. En tout cas, Tess Johnson, ses parents, I guess, qui l'ont comme
abandonné.
Fait que la famille de Bo Nix l'ont comme adopté. Puis ça, c'est un receveur un peu type que de Stoney, qui est capable de. Quand il y a le ballon dans les mains, il est capable de tout faire. Fait que ça, c'est un gars que je suis quand même excité de voir. Puis, le dernier, je suis allé avec un gars défensif aussi. Un DB d'Ole Miss, Trey Amos, qui s'appelle. Ça, c'est un gars qui devrait sortir fin de première ronde environ. Ce que j'aime avec ce gars-là, très physique. Il est... Ben, physique. Très agressif, je dirais plus. Il y a encore des problèmes pour tackle les gars en face de lui. Mais je trouve que sa manière d'être un corner, il stick avec le receveur devant lui. Son backpedal est quand même pas mauvais. Mais c'est ça, c'est un échalote. Là. Le gars est vraiment pas gros. Mais je pense que c'est un gars qui met du muscle dans l'off-season, qui est dans NFL, ça pourrait être un genre de sauce gunner. Là.
Ouh.
Ouais.
Intéressant.
Ouais.
Tess Johnson, mettons qu'il va se faire repêcher selon toi.
Oui. Ouais, je pense que ça va être probablement.
Broncos bound, c'est sûr.
Hein?
C'est sûr que ça va être les Broncos.
Ouais, ça serait frais.
Ça serait frais en tabarouette.
Ouais. Ça, c'est un gars, d'après moi, qui va sortir peut-être fin de deuxième ronde. Fait que d'après moi, les Broncos, avec leur choix de milieu de deuxième ronde, je serais pas surpris qu'ils le
ramassent. On s'entend plus que ça leur ferait pas de tort. Un bon receveur qui est bon après l'attraper comme Tess Johnson.
Ouais, parce qu'actuellement, ils ont pas vraiment ça. Sutton est un bon route runner.
C'est un bon deep threat aussi. Mais, tu sais, pour gagner des verges après l'attraper.
Ouais.
Ça, on dirait que c'est un fit. Ouais. Moi, ça serait vraiment. Ça rajouterait au feel good story, ouais, que c'est déjà.
Puis eux autres aussi ont Troy Franklin qui jouait avec eux autres l'an passé, là, ouais, qui était receveur aussi à Oregon. Fait que ces trois-là ensemble,
ça pourrait être hot.
Je pense que ça serait sexy à Denver.
Ça, ouais, pourrait être cool.
Ouais. Un autre gars aussi, by the way, qui a été invité. Un peu random. Là,
Ah oui, j'ai vu ça aujourd'hui.
Le carrière de Laurier. Qui est habituellement, le Senior Bowl invite des Canadiens, mais bien souvent, c'est des gars de ligne, là, soit de ligne offensive ou de ligne défensive.
Mathieu, il y allait,
en même temps, joue aux États-Unis. Ouais, mais
c'est ça.
Des gars qui en prennent tout le temps un ou deux qui jouent dans le U-Sport.
OK. Ah ouais.
Puis souvent, tu sais, comme l'an passé, c'était deux gros O-line de l'Université en Colombie-Britannique. C'est des perches, des gars genre de 6-7, là, qui sont actuellement dans la NFL, je sais plus où, mais je sais qu'ils ont été repêchés. Fait que Helgersma a été invité. Helgersma.
C'est QB de Laurier. Laurier, c'est l'équipe que Laval a battue en finale de la Coupe Vanier.
Ouais, puis c'est l'équipe, c'est Laval, la défense de Laval qui a muselé Helgersma. Puis tu sais, je comprends qu'il y a eu des gros stats en Ontario puis tout, mais quand tu te fais museler par une défense de l'Université Laval, là, tu vas pogner la défense des Steelers, tu vas la trouver moins drôle. Je comprends que Laval a des bonnes défenses.
Ouais, mais là.
Avec le gros Glenn Contentin.
Glenn Contentin, il est en train de des bonnes défenses, là, mais tu sais, il n'y a pas Miles Garrett cette année-là.
C'est ça. Fait que, en tout cas, je pense que c'était bon à dire parce que à chaque année, le Senior Bowl en invite, mais là, un QB.
Un QB, c'est rare, un QB canadien.
Ouais,
j'ai hâte de voir, c'est sûr qu'on va en entendre parler dans les médias, ouais, canadiens, de voir ses highlights. Là.
Ouais, fait que c'est le Senior Bowl va être le samedi de la fin de semaine du Pro Bowl.
Ok, ouais, en même temps que le Pro Bowl. Fait que pas en fin de semaine, l'autre d'après.
C'est ça, exact.
Alright. Ouais. Parfait. Je risque d'écouter ça perso. Là, ouais. Ça m'intéresse de voir, surtout pour le draft. Puis si on a l'intention de faire un petit spoiler alert, là, mais on a l'intention de faire un épisode mock draft / prédiction, tout juste avant le draft pour vous autres.
Ouais.
Fait que ça va me faire du knowledge additionnel. Mm. La semaine passée dans la NFL, on va y aller en ordre de l'ordre qui sont déroulés les matchs. Les Chiefs, qui réussissent à puncher leur ticket encore une fois pour la finale de conférence à Kansas City suite à une victoire contre les Texans. J'ai bien aimé quand même comment le jeu de CJ Stroud.
Ouais.
Les Texans, c'est comme, je sais pas quoi penser de leur performance dans ce match-là. Je trouve qu'ils ont quand même bien performé, mais
je suis d'accord. Leur défensive, elle light out, honnêtement.
Ouais, leur D-line, là. Paris avait de la misère.
Non, ça n'a pas de bon sens. T'sais, le gros Daniel Hunter au bord de Will Anderson, là, c'est solide. Là.
Ouais,
puis ça. Le DB là, avec Lasseter, Stingley, c'est. Non, c'est solide. Mais tu sais, malheureusement, on retenait encore l'arbitrage qui a été bof. Là. Quelques jeux que. Tu sais, je comprends que les Chiefs. Probablement qu'il aurait quand même gagné sans l'arbitrage, mais c'est quand même un sujet qu'il faut encore qu'on parle malheureusement.
Ouais, puis pas encore une grosse performance de Mahomes. J'ai lancé le ballon juste 25 fois pour 16 complétions, puis 177 un TD.
Ouais,
mais c'est Kelsey.
Ouais.
Le gros playoff Kelsey, c'est comme s'il a changé de vitesse pour les playoffs, comme on.
C'est
Monsieur Paco, il nous disait. dans les dernières semaines. Attendez voir Playoff Kelsey. Attendez voir Playoff Kelsey.
Ah, ils l'ont reposé cette année pour ça. Puis
là, ils vont feast.
Fait que
sans surprise, j'ai tendance à dire sans surprise.
Ben moi aussi, je pense que c'est ça que j'allais dire.
Les Chiefs vont passer. Par contre, le match de samedi soir.
Ouf, ça c'était.
Crazy stuff, brother.
Ça, j'avais pas ça sur ma carte de Mingo.
Je sais pas qui avait dit dans le tellier de podcast que les Commanders sortaient de la, sortaient de la NFC, mais ça commence à avoir l'air de pouvoir arriver. Puis le nerf de la guerre dans ce match-là, je pense que tu vas être d'accord avec moi que c'était les turnovers.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, 5 turnovers pour Détroit.
Hic, ça fait mal. Hic, ça fait mal. 3 interceptions pour Jared Goff.
Une pour Jameson Williams.
Une. Tough. Les Lions, c'était vraiment. J'avais vraiment l'impression que c'était comme cette année. Puis on va en parler plus tard, mais on a perdu des gros morceaux. Puis on parle pas de joueurs, là, mais on parle de leur personnel entraîneur. On a perdu 2 gros morceaux cette semaine. On va revenir. Mais les Commanders, oh là là.
Ouais, sont impressionnants. Ils sont for real. Jayden Daniel. He might be the real deal.
He might be the real deal, hein?
Might be.
2-9-9 par la passe avec 2 touchés. Puis 51 fois au sol.
Puis tu sais, c'est qui? Je le trouve tellement calme dans la pochette. Là.
Ouais, il n'y a pas de stress. Puis les Lions ont amené du heat toute la game. Puis il était toujours, il faisait toujours bien ses reads, trouvait toujours capable de lire d'avance. Honnêtement, il y a un IQ hors du commun. Puis tu matches ça avec un skill set, puis l'athlète de 16 hommes, que je dirais en anglais, genre supérieur à moyenne, ça fait tout qu'un carrière. Tellement content pour McLaurin aussi. Puis Diami Brown.
C'est son coming out party, lui. Ouais, hein, là, dans les playoffs.
Calvaire.
Il a pas aimé ce que Amon-Ra a dit. Ouais, hein.
Amon-Ra a quand même mis 140 verges. Ça me dit sur le board en termes de verges.
Ouais, c'est sûr, mais tu sais.
Quand ça se traduit pas pour une victoire, c'est vrai que ça joue toujours contre toi.
Ouais.
Fait que les Commanders qui battent les Lions, crazy stuff.
Ouais,
les turnovers.
À Détroit en plus.
Hein. À Détroit.
Ouais.
J'aimerais pas être un fan des Lions.
Non.
Mais j'aimerais s'en sacrifier d'être un fan des Commanders en ce moment.
Ouais.
Hey! Eux autres, ça fait longtemps. Là.
Ils l'ont pas volé. Là.
Eux autres, là, ils étaient dus en tabarouette pour avoir de quoi qui bien qui arrivait pour leur franchise. Puis s'ils s'en vont au bowl, après avoir été 3-14 l'an passé, oh Lord! C'est vraiment du lourd.
Ouais.
Après ça, dimanche... Les Eagles qui ont accueilli les Rams.
Mm-hmm.
Les Rams qui sont quasiment revenus à la fin. Par contre, ils sont arrivés à court. Matthew Stafford, grosse performance en défaite quand même. 324 verges par la passe. Karen Williams a aussi bien joué, mais on va surtout se rappeler de son fumble en fin de match. Ouh, que ça fait
ça,
mal.
C'est un problème, lui, là. Il va falloir qu'il se mette de la glu, c'est moi.
Ouais, je sais pas s'il est allé à un party à Diddy à LA la veille, là, mais si, maintenant qu'il y avait de la baby lotion partout, ses gars.
Lui,
faut dire qu'il neigeait que le dog.
Ouais, ça oui, là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est qu'il neige ou qu'il neige pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a le ballon, puis le backer arrive en arrière pour y puncher. Hein.
Ouais, on dirait qu'il est pas aware de ça, puis il se fait toujours pogner. Jalen Hurts.
Pas impressionnant. Honnêtement, on l'a pas revu jouer une grosse game depuis le Super Bowl il y a 2 ans.
C'est vrai.
Une game où ce qui domine,
ouais.
On l'a pas revu depuis le Super Bowl il y a 2 ans.
Ça tombe bien parce qu'on sait quoi, je pense que ça va être le mot jusqu'à la fin. Hein. Ça va être c'est quoi.
Ouais.
Les Commanders.
Faut qu'ils remplissent la boxe.
Ouais. Eux autres, s'ils réussissent à arrêter c'est quoi, ils sont en bonne posture, tant qu'à moi.
8 gars dans la boxe, puis.
Avec l'acquisition de Larry Moore qui commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens au deadline cette année. Maintenant, t'as Larry Moore que tu peux mettre sur AJ Brown contre les Eagles, ça fait toute une différence.
Ouais.
Pour leur défense, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que c'est là que ça se joue. C'est la game est des mains à Saquon Barkley.
Ouais.
Je pense.
Je suis d'accord, mais malheureusement, la stat, c'est que c'est l'équipe par game qui fait le plus de points depuis qu'il est rentré dans. Qui fait le plus de verges depuis qu'il est rentré dans la NFL. Fait que contre la Ligue des Commanders,
même quand il jouait avec les Nakno Giants, puis c'était tout le temps contre les Commanders.
Ouais, fait que, j'ai un peu peur, mais écoute, on va en reparler tantôt de toute façon.
Ouais, exact. Et le match qui a provoqué l'absence de M. Paco cette semaine, écoutez, je voulais pas en parler plus tôt dans le podcast, mais il vit les conséquences présentement d'un sévère traumatisme à sa passion sportive après la défaite des Ravens contre les Bills dimanche soir. Je voulais pas mentionner le nom de Mark Andrews, mais vous savez tous ce qui s'est passé si vous écoutez ce podcast. Keep your head up, Mark, mais elle fait mal en sacrament, celle-là, par contre.
Ouais,
là.
Ouais, ouais.
Un fumble, un miscatch sur le two point, sur l'extra point, qui ultimement aurait probablement forcé une prolongation.
Ouais.
Les Bills qui restent parfaits à la maison cette année, par contre, et ça va créer le match que tout le monde attendait, dont on va parler tantôt. Mais Josh Allen a été un bon game manager.
Ouais, ça a été une game correcte sans plus, mais il va chercher le W, mais il a pas eu besoin de jouer au super-héros comme dans le passé, genre.
C'est ça.
Et il a bien managé la game sans jouer au héros, genre.
Puis sur papier, plusieurs diront que c'est la moins bonne attaque qu'ils ont depuis,
ouais,
depuis pas mal longtemps.
Ouais.
Puis c'est là que, justement, il n'y a plus besoin de take over the game tant que ça.
Mm-hmm.
They're looking scary good, the Bills, right now. Puis avec Matt Milano qui est revenu en défense.
Ouais.
Hey, ça fait du bien. Là. Il était là partout.
Von Miller joue quand même bien aussi.
J'ai vu
qu'en saison régulière, ils l'ont comme arrêté un peu pour qu'il soit frais pour les séries. Puis j'ai l'impression que ça paraît. C'est lui d'ailleurs qui a ramassé le ballon.
Le fumble qui a commencé à courir. Ouais. Il est sûrement se plugger sur le respirateur après. Ouais. Le vieux Von, mais... mais quand même, c'était tout qu'un jeu. Puis
ouais.
DeMar Hamlin qui... Il est quand même lead les plaqués chez les Bills. Là.
Ouais.
Il avait l'air de faire n'importe quoi à certains moments de la game l'autre fois.
C'est peut-être des séquelles, malheureusement.
Et 8 plaqués quand même. Ouais. Je trouvais ça je impressionnant. Puis j'aime bien aussi voir. Ben en fait, la D-line du cours des Bills, vous aurez peut-être remarqué en écoutant le podcast que j'aime bien les grosses D-line. Là. Mais la D-line de Greg Rousseau,
ouais.
Ed Oliver puis Von Miller, là, ça m'excite le bout, sérieux, là, quand je regarde ça jouer.
Les deux backers aussi, Espinosa
puis Milano. Et
Milano, là.
Ouh!
Ouais, ouais, ils ont une crise de front 7.
Ouais, ça, c'est vraiment là qu'ils peuvent causer du trouble pour les autres attaques. Puis on va vous parler de leur affrontement de la semaine prochaine, mais qu'on s'en aille dans notre prochain segment, parce qu'avant, je veux qu'on parle des mouvements de coach à NFL. Ça commence à se bousculer un peu pour ce qui reste.
Ouais.
On apprend des nouvelles choses.
De minute en minute.
De minute en minute, on apprend des nouvelles choses.
J'allais voir ça, d'ailleurs, c'est...
Non, on n'est pas... La dernière nouvelle qu'on a eue, c'est celle avec qui on va commencer. Petite saga un peu loufoque. Dans les derniers jours, avec le coordonnateur à l'attaque des Bucks, M. Cohen, qui avait initialement refusé, dis-moi si je me trompe, d'interviewer pour le poste d'entraîneur-chef des Jags.
Il a passé la première entrevue.
Ouais, c'est ça.
Mais quand ils l'ont appelé pour la deuxième, il a dit non, je ne vais pas.
Et ça s'en est suivi tantôt que les Jags ont fire leur GM.
Ouais.
Par le propriétaire, puis le propriétaire qui est sorti publiquement après pour dire je vais choisir mon coach avant mon general manager. Et Cohen a dit qu'il allait donc retourner rencontrer les Jags.
Ouais,
donc okay. Je pense qu'il a sacré le problème par la porte. Puis
le pire, c'est que les Bucks, quand ils ont appris qu'ils revenaient, ils étaient tellement contents qu'ils reviennent, ils allaient faire de lui le coordonnateur le mieux payé de la ligue.
Ouais.
Puis là, finalement, on apprend que...
Il va y aller, puis tout indique que c'est pas mal là qu'à ce niveau-là.
Ça, de toute façon, c'était le gars numéro un à Jacksonville. C'était lui qui en parlait plus que Ben Johnson, même. Fait que...
OK, ouais. C'était leur target depuis le début.
Ouais.
Ça serait quand même une bonne embauche.
Ouais, c'est un bon
pour Trevor Lawrence, surtout.
Ouais.
Je pense que ça serait un gros move dans cette direction-là.
Ouais, on voit ce qu'il a fait avec Baker Mayfield.
Yep. Absolument. Sinon, on a parlé des Lions tantôt, mais les Lions qui vont perdre leurs deux coordonnateurs, Ben Johnson qui reste dans la division même et qui s'en va à Chicago pour être le head coach des Bears. On dirait que je suis quand même mitigé sur ça.
Moi, je pense que ça va être pas pire. Le problème, c'est que quand t'embauches un coordonnateur qui a jamais été head coach avant, tu sais pas, exemple, comment il va gérer une game. Fait que, tu sais, les temps morts, les quatrièmes essais, toutes ces affaires-là. Tu sais,
il y a plus de game management.
Ouais, pour l'aspect play calling, on sait qu'il est bon. Là, tu sais, ce qu'il a fait avec les Lions, ça va être de voir s'il va être capable de d'être un bon game manager.
Exact.
Mais tu sais, il arrive dans une
stratégie. Il y a des stratégistes avec des écouteurs dans l'équipe aussi qui l'assistent là pour ça. Ouais.
Alors, il arrive dans une situation où tu es un jeune carrière qui a pas été mauvais. Il a pas été lights out, mais il a pas été mauvais non plus.
Non.
Ils ont quand même trois bons receveurs, un bon running back. La ligne offensive ressortait un peu, par contre. Là,
cette année, il se faisait bousculer.
Tes deux premiers choix, t'as pas le choix de repêcher ça, parce que même leur défensive, honnêtement, est pas mauvaise. Il y a des pièces un petit peu partout. C'est pas une très bonne défensive, mais c'est loin d'en être une peu non plus.
Ils peuvent être compétitifs avec cette défensive-là si leur attaque se...
Ouais, fait que, mais je pense qu'honnêtement, les deux premiers choix, il faut que ça soit les gars de ligne offensive.
O-line, ouais. Ben, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai vu un coach réussir avec les Bears, on dirait que j'y crois plus.
Ouais.
Donc, c'est peut-être ça qui me rend un peu sceptique. Du côté du coordonnateur défensif des Lions, Aaron Glenn, s'en va prendre le poste d'entraîneur-chef avec les Jets de New York. Donc, peut-être un virage plus axé vers la défensive du côté des Jets.
Mais les Jets, ça fait une couple d'années. Robert Saleh aussi, c'est un coach défensif. Puis là, il avait embauché, par intérim, ça avait été Albrick.
C'était le DC avant. Fait que c'est ça qu'on garde. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Rodgers. Je change un peu du sujet, mais...
Kinder,
le fait qu'il embauche encore un coach à caractère défensif, je trouve ça pas encourageant pour notre chum Aaron.
J'ai hâte de voir Glenn va s'entourer de qui comme coordinateur offensif, parce que c'est Rodgers, ça y prend un gars qui mange dans la main.
Puis Nathaniel Hackett est plus là.
Non.
Il est parti avec ça.
Ben, il a fini l'année, mais il est parti après. Là.
C'est ça. On parlait de college football tantôt, mais Al Golden, qui est le DC de Notre Dame,
qui va
comme DC chez les Bengals,
arrive
à notre ami M. Cloutier. Je pense que ça va faire du bien, les Bengals cette année.
Puis la défensive de Notre-Dame, même des années que ça allait moins bien, ça a toujours été un facteur comme positif.
C'est toujours été un bright spot dans leur fort de route.
Je pense que c'est un hiring qui pourrait les aider. Là, parce que, tu sais, eux autres, à part Trent Dixon, il n'y a pas vraiment de piège dans cette défensive-là. Là, fait qu'il va falloir qu'ils fassent un peu de magie.
Exact. On a vu que ça le coste les Bengals une place en playoff, for sure. C'est le bon gars pour réaviver la flamme dans la défense des Bengals. Les Cowboys ont aussi un poste vacant comme entraîneur-chef. Alors, aussi, a eu sa deuxième entrevue.
Luke Schoonmaker?
Schottenheimer. Première entrevue qui aurait duré 4 heures, puis là, ils l'ont convoqué pour la deuxième. Donc, ça aussi, on dirait que peut-être que les Cowboys vont engager in-house pour leur head coach. Ça serait quand même bizarre.
Il y a quand même des bons noms que tu peux aller chercher, mais en même temps... Je pense que pour un jeune head coach, je veux peut-être pas avoir affaire à Mike McCarthy.
J'avoue.
C'est pour ça que je pense qu'ils vont peut-être plus aller à l'interne.
Yes, puis petit, c'est pas vraiment un personal change, mais Kevin Stefanski à Cleveland qui a dit qu'il reprenait le play-by-play. Calling de l'attaque l'an prochain.
OK.
Fait qu'il y a un petit changement à venir du côté des Browns. On doit voir ce que ça va donner, surtout après la saison que Julie a eue. Voir si Stefanski en plus reprend le play-calling. On sait que c'est un très bon coach. À caractère offensif, là, donc j'ai vraiment hâte de voir comment il veut utiliser ses pièces l'an prochain, sachant que notre chum Deshaun Watson ne jouera pas encore la saison complète. Hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les Browns de ce niveau-là. Fait qu'en fin de semaine, Commanders-Eagles, un duel tout NFC East. Tes prédictions?
Je vais prendre les Eagles, mais je prends un spread de Washington.
Okay.
Je me sauve le cul avec le spread de Washington, parce que je pense pas que... Le spread qui est encore à 6. Hein. Je pense
que... Il est à 6?
Ouais, il est à 6. Fait que j'ai l'impression, moi, que Washington va être dans le game, mais à un moment donné, je pense que c'est Saquon Barkley. Il va break pour une, puis il va se rendre loin. Là. Fait que c'est pour ça que je prends Philadelphie, mais c'est le genre de game... Ben, t'es rendu au championship. C'est le genre de game des deux bords que toutes les équipes peuvent gagner, là. Les deux équipes peuvent gagner, peu importe la conférence. Fait que, mais je vais prendre Philadelphie pour celle-là.
Je vais essayer de me counter-jinx, parce qu'au fond de moi, j'aimerais bien que les Commanders gagnent, mais je vais prendre les Eagles aussi. Je regarde les match-ups. Les DB des Eagles, des gars avec beaucoup d'expérience. C'est Darius Slay. On a des bons joueurs, des bons jeunes aussi. Mitchell, il va pas jouer.
Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Ça pourrait...
Cooper de Jean va être comme corner 2.
Ouais.
Après ça, Jalen Carter, honnêtement, on en parle peut-être pas assez, là, mais c'est un méchant disrupteur dans une défense.
Ouais.
Je sais pas si la ligne offensive des Commies va être capable de stopper Jalen Carter. Puis à l'attaque, ben, c'est quoi?
Ouais.
C'est tout. Simple et Saquon. Tu sais, c'est... Fait, gotta go with the Eagles, même si au fond de moi, j'aimerais bien ça que la run des Commanders a continué jusqu'au bowl. Ouais. Ça serait une belle story.
Je suis bien d'accord.
Pour Jaden Daniels. Et le match... Que, tu sais, le match que tout le monde était sûr qu'il allait arriver en début de saison. Mm-hmm. Tu sais, le match que tout le monde aurait prédit, c'était quoi? Finale de conférence, Kansas City Buffalo.
Ouais.
Et voilà. On l'a encore cette année. Prédiction.
Je l'ai dit la semaine passée, j'ai dit que le gagnant de Baltimore-Buffalo allait se rendre au Super Bowl. Je reste sur ma prédiction, Buffalo.
Moi aussi. La façon que je les ai vus jouer contre les Ravens, puis on dirait que les distractions des dernières années, il y avait Stephon Diggs et tout, mais on dirait que c'est juste Josh Allen against the world. Mm-hmm. Je pense que c'est son année.
Ouais.
Je joue avec les Bills.
Ça va être une game serrée encore, par contre. Ouais, mais... Ça va être
une game très serrée.
Mais ouais, je joue avec les Bills.
Le spread des Bills, ça doit être je sais pas c'est combien.
Je pense que Kansas City est favori par 1.
Ouais, c'est ça. Le spread doit être à 1.
Ouais.
Je serais pas surpris de voir non plus Kansas City gagner sur un kick à la fin qui arrive loufoque. Ouais. Je sais pas trop. Mm-hmm. Que finalement, ça serait pas surprenant.
Ouais.
Mais je ramasse les Bills. Je ramasse les Bills.
Ouais.
Puis encore une fois, je pense que comme dans les autres match-up la semaine passée, ça va vraiment être les turnovers qui vont gérer, qui vont décider qui gagne. T'sais, la semaine passée, les 4 équipes qui ont eu le plus de verges ont toutes perdu.
Ouais.
Dans le match.
Ça, c'est quand même fou. Là.
Juste à cause des turnovers. Ouais. Fait que je pense encore une fois que ça va être le nerf de la guerre. Mais je vais avec un match-up au Super Bowl Eagles-Bills pour la première fois de l'histoire.
Pareillement. Ouais.
Yep. Comme je disais en début d'épisode, on a eu les nominés pour les awards cette année dans la NFL. Fait que moi, je les ai pas regardés de la journée. Tout les a regardés.
Ouais.
Fait que je vais les nommer. Mm-hmm. Puis je vais dire c'est qui mon pick. Mm-hmm. Puis tu me diras si t'es d'accord.
Okay.
Most Valuable Player.
Ouais.
Josh Allen. Saquon Barkley. Joe Burrow. Jared Goff. Ou Lamar Jackson. Et mon choix, c'est Lamar Jackson.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que... Mais je serais quand même pas surpris que Josh Allen le gagne non plus. Parce que, tu sais, cette année, le fait de perdre son number one weapon en Stephon Diggs, puis qu'il soit quand même capable d'avoir une saison moins bonne statistiquement, mais que les Bills sont plus dominants qu'avant, je pense que ça peut l'aider pour sa cause, pour être le MVP.
Absolument. Là. Moi, c'est les deux, c'est mes deux choix.
Mm-hmm.
C'est juste que Lamar a des meilleurs stats, puis j'ai bien l'impression que dans un dilemme, c'est peut-être ça qui va faire pencher vers lui.
Mm-hmm.
Fait que je pense que ça serait Lamar MV3 cette année. Offensive Player of the Year, on a Saquon Barkley, Joe Burrow, Jamar Chase, Derrick Henry et Lamar Jackson encore. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller pour Saquon Barkley.
Ouais, moi aussi, je pense que ça va être ça.
Je pense que juste le fait qu'il soit nominé MVP.
Ouais.
Oui, vous me direz que Joe Burrow aussi. Puis Joe Burrow, c'était pas mal mon deuxième. Ouais, les deux gars des Bengals, Jamar Chase et Joe Burrow. Honnêtement, Jamar Chase, c'est une saison remarquable, là, mais les deux ensemble. Mais Saquon, t'as pas le choix. Il
ouais.
y a comme. Ça a quasiment été. Ça a été l'MVP des Eagles toute la saison.
Ouais.
C'est juste qu'il peut pas être MVP parce qu'il est pas QB.
Mais oui, il m'a passé de quoi par la tête tantôt. Là. Je me suis dit, en regardant ça, what if que le MVP. C'est Josh Allen. Ils ont voté pour Josh Allen. Puis, le Offensive Player of the Year, ce serait Lamar. Mais je pense que pour le Legacy, c'est bien plus imposant d'avoir un MVP qu'un Offensive Player of the Year. Fait que je pense que s'ils veulent open les nommer les deux, ils feraient un split MVP.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais souvent, le Offensive Player of the Year, moi, si je me trompe, mais...
C'est plus pour un joueur de position.
Ouais, parce que les QB,
on les MVP.
On leur laisse le MVP, genre. Ouais. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça va être Saquon Barkley, c'est mon choix.
Mm.
Defensive Player of the Year, TJ Watt, Pat Surtain, Trey Hendrickson, Miles Garrett et Zach Bond.
T'es qui, tu?
Moi, je vais y aller avec Pat Surtain, je pense.
Vraiment?
Pat Surtain des Broncos.
Ouais.
Trent Dixon, oui, a lead la ligue en sac. Miles Garrett a gagné des games tout seul, quasiment tout seul, lui-même encore cette année, quelques-unes.
Mm-hmm.
Puis TJ Watt a trop baissé son niveau de jeu en fin de saison, simplement.
Je suis d'accord.
J'adore voir le nom de Zach Bond ici, surtout que c'est une très belle histoire qui était, genre, chez les Saints. Ouais. On avait regardé, tu sais, ils l'ont signé ou ils l'ont échangé contre...
Ouais, il a été signé, mais tu sais ça, quand je suis en Nouvelle-Orléans, c'était pas un gros nom, mais là, il arrive à Philadelphie, puis il fait parfaitement la défense de Vic Fangio. Ouais. Fait que...
Il était lights out. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, lui, j'avais bien aimé, j'avais spoté dès le début de la saison, là, je pense que c'était toute une trouvaille pour les Eagles. Ouais. Offensive Rookie of the Year, Brian Thomas Jr., Bo Nix, Malik, Jaden Daniels et Brock Bowers. C'est Jaden Daniels selon moi.
Moi si. Mais.
Il y a des records. Il y a des records qui ont été brisés par Bowers Neighbors.
Et puis, honnêtement, Bo Nix, là, sa fin de saison était. Ça, il a été un petit peu plus lent à partir, là, mais une fois qu'il a été starter, là,
ouais.
Je pense que Jaden Daniels va gagner tough, aussi. Hein, ouais. Mais honnêtement, peu importe celui des 5 qui le gagnerait, il ne volerait pas, j'ai l'impression.
Mm-hmm. Non,
mais je pense aussi que tu as Jaden Daniels, mais c'est ça, comme je te dis, d'après moi, Bo Nix va avoir une coupe de vote aussi. Là.
Parce que quand tu es un second overall pick, puis tu live up to the hype, on dirait que ça donne du genre du aura, ouais, sale, c'est comme un vote de aura, un peu, ouais, l'Offensive Rookie of the Year, ouais, au-delà des stats. J'ai comme vraiment l'impression que c'était lui.
Ouais,
j'aimerais bien savoir Malik, là, mais ouais, non, ça n'arrivera pas. Surtout que Brock Bowers a battu le record de catch pour une recrue une saison. Je pense vraiment que c'est Jaden Daniels qui va gagner ce award-là. Du côté de la défense, Defensive Rookie of the Year, on a Cooper DeGene, Braden Fisk, Quinion Mitchell, Chop Robinson et Jared Verse. Donc, deux joueurs des Eagles, deux joueurs des Rams.
C'est quand même fou.
J'ai pas le choix d'y aller avec Jared Verse, quoique Quinion Mitchell, je pense...
Il a son couple aidé aussi sa cause, mais moi aussi, j'allais avec Verse, même s'il a pas été meilleur.
Statistiquement, c'est ça.
Parce que Braden Fisk a eu une meilleure saison statistiquement, mais Verse, j'ai l'impression, parmi tous ces gars-là, on peut aussi peut-être Quinion Mitchell un peu, là, mais parmi tous ces gars-là, j'ai l'impression que ça a été lui qui a été le plus dérangeant dans des défenses.
J'allais dire disruptor. Ouais, c'est le gars qui a le plus d'impact sur le terrain sur un match.
Quoi que, ben, c'est parce que le problème, c'est que Quinion Mitchell, j'ai l'impression que ça va être un peu un genre de shutdown. Fait que c'est pour ça qu'on entend moins parler de lui un peu, mais je pense que ça va vraiment jouer entre ces deux-là. Puis Chop Robinson, je pense que c'est vraiment à cause d'en prenant un cinquième, parce que statistiquement, je pense que c'est genre 6 sacs. Pas été très... Puis tu sais, c'était un outside linebacker. Ouais. Fait que, correct, mais je pense que c'est vraiment entre les quatre des deux équipes que ça se joue.
Ouais, là. C'est ça. Puis mon vote irait pour Jared Verse.
Ouais, parce pareillement.
Comeback player of the year, ça, c'est un bon, je trouve. Là. Ça, c'est peut-être qu'on va s'estimer un peu plus.
Ouais.
Joe Burrow, Sam Darnold, J.K. Dobbins, Christian Gonzalez, puis Damar Hamlin. Moi, j'ai le goût d'y aller avec Joe Burrow.
Je joue avec Sam Darnold.
Mais Sam Darnold va gagner, je pense.
Ouais. Je pense que ça a été voté après la dernière semaine.
Ouais.
Fait que la game de série est pas en jeu.
Non, c'est ça. Exact.
Mais Sam Darnold, je veux dire, tout le monde le clownait, genre.
Ouais.
Puis cette année, il s'en va au Pro Bowl. Puis il amène quand même les Vikings à quoi, 13 victoires?
14 tours.
Je pense que c'est Sam Darnold. Puis tu sais, je veux dire, le fait aussi qu'amener son équipe en playoff, Joe Burrow, il a tout essayé, oui, mais.
Non, c'est ça. Puis c'était pas. Oui, c'est une grosse blessure. Là.
Ouais.
Mais c'est surtout qu'il y a une méchante grosse saison.
Là. Ouais, ouais. Et mais un autre gars que j'aime voir là, c'est J.K. Dobbins. Hein, ouais, là.
Très belle saison, ouais, avec les Chargers, avec deux ACL de suite, là, si je ne me trompe pas. Puis Damar Hamlin, je veux bien. Là.
Ouais. Ben, même Gonzo, là.
Lui, il est slept on. Là. Christian Gonzalez, pour ceux qui ne savent pas, des passes cornerback. Là.
Ouais.
J'ai justement posé la question, je pensais à ça avant le podcast, là, mais. Si Will Johnson, il follow Pat, tu mets Will Johnson puis Christian Gonzalez dans l'intercept.
Ouh! Ça serait ridicule, ouais, honnêtement.
Ça m'exciterait, là. Ici, wow, man, ça me rappellerait les bonnes années quand il y avait Darrell Revis et Malcolm Butler. Là.
Le no-fly zone en Nouvelle-Angleterre.
Il y aurait des îles partout là, que tu ne peux visiter, là. Ah, non, Gonzo Island puis le Johnson Island, l'autre bord, là. Oh là là.
Simonac.
Ouais, ça serait crazy stuff.
Ouais.
Coach of the Year, Dan Campbell, Detroit Lions, Kevin O'Connell, Minnesota Vikings, Sean Payton, Denver Broncos, Dan Quinn, Washington Commanders et Andy Reid, Kansas City Chiefs. Je te dis mon choix, moi c'est Sean Payton.
Ah, bon choix. Moi, ça serait mon deuxième.
Après Dan Quinn ou...
Après Kevin O'Connor.
Ouais, toi, t'aimes pas les Vikings.
Mais... Ouais, c'est parce que j'aime Kevin O'Connor.
C'est ça.
Ouais.
Mais c'est vrai que faire ce qu'il a fait avec Sam Darnold comme QB, c'est quand même très impressionnant.
Puis tu sais, je veux dire, il n'y avait pas un... Il n'y avait pas une... Tu sais, sur le papier, les Vikings, j'ai vu des vidéos d'eux sur TikTok en début de saison. Le monde leur donnait genre 3 victoires.
Non, le monde n'était pas... il était pas, puis... pas prédit.
Sortent de là, genre avec 14 victoires, 3 défaites. Moi, honnêtement... Puis tu sais, ce qui est poche pour eux, c'est que en playoff, ils ont pogné le pay match-up pour eux.
Ouais.
C'est les Rams, avec leur grosse D-line, c'était sûr que Darnold allait flancher à un moment donné. Mais je pense quand même que c'était une bonne équipe, les Vikings, cette année. Puis O'Connell, ce qu'il a fait avec ce roster-là, je trouve qu'il mérite cette année.
Exact.
Mais Sean Payton, je suis quand même d'accord. Pour moi, c'est le deuxième.
Mais tu sais, lui ou Dan Quinn... Je le dis encore, mais les
mais Commanders... Mais Dan Quinn aussi,
Les vois. Commanders étaient 3-14 en passe calvaire. Hein,
ouais.
Ils n'ont pas tant fait des grosses acquisitions tant que ça. T'sais, oui, là, Jaden Daniels, Bobby Wagner, Marshall... Mais tu sais, c'est incroyable là, comme turnaround season. Puis c'est la même histoire pour les Broncos. J'avais l'impression que les, des fois, ça peut peut-être les favoriser.
En termes de roster pur, là, fais-moi ton 1-2-3 Vikings-Broncos-Commanders.
En termes de roster pur.
Juste mettons sur le papier.
Je dirais Minnesota 1, Commanders 2, Broncos 3.
Ouais.
Mais Minnesota et Commanders sont rendus. C'est juste que le receiver core des Vikings leur attaque aérienne éclate complètement le roster des Commanders.
Non, je suis d'accord. Moi, je pense que ça.
Mais, tu sais, à voir. Là, c'est vraiment celui où je suis vraiment pas sûr de ce que je dis.
Non, c'est ça.
Puis, je suis la première année que Assistant Coach of the Year, je suis pas sûr.
Ben, là, tout le temps, mais habituellement, genre, à la cérémonie des Awards, c'est ça. Mais il y en a un à chaque année. Je sais que Dable l'a déjà gagné quand il était à Buffalo. Là.
Ok, ouais.
Mais c'est la première fois que la NFL, genre, le publie.
Fait que les récipiendaires sont Joe Brady, qui est là aussi des Bills, Vic Fangio, qui est defensive coordinator des Eagles, Brian Flores, defensive coordinator des Vikings, et les deux coordinateurs des Lions. Donc autant Aaron Glenn que Ben Johnson. Puis pour cela, j'ai pas le choix d'aller un peu dans la même direction que toi tantôt, mais Brian Flores, pour moi, c'est l'assistant coach of the year. Les Vikings, honnêtement, sur papier, j'ai regardé leur défense avant la saison, puis j'étais ouf, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis Van Ginkle était rendu un All-Star là-bas. Là.
Ouais.
Puis il faisait toute la défense des Vikings cette année. Là. Ça blesse en colons ces défenses de Brian Flores, puis ils sont bons. Là. Non, moi, c'est mon choix. Mais Vic Fangio, quand même. Vic Fangio is Vic Fangio. Là.
Moi, j'hésite entre Flores ou Ben Johnson. Ben Johnson.
Ouais, c'est sûr.
L'attaque des Lions, on oublie cette année. C'était genre des 56 points là, des fois sur le tableau.
C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est parce que là, on a comme la défaite en playoff qui nous teint un peu notre opinion. Là. Mais.
Puis tu veux pas, même en playoff, ils ont mis quoi, 33 points sur le tableau, je pense.
Ouais.
Avec ça.
Ils ont passé 45-33, mais on s'entend que c'était comme on a dit à maintes reprises dans le podcast, c'est vraiment les turnovers qui ont été le nerf de la guerre.
Mais Flores Johnson, j'ai l'impression que ça va être un des deux là, qui va le gagner. Puis d'ailleurs, Brian Flores, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de job. Là.
Non, ben, il y a eu le scandale la dernière fois avec. Bref, mais je pense que moi aussi, il serait méritant de poste comme entraîneur.
Je sais pas si Brady pourrait peut-être l'appeler pour qu'il coache les Raiders. Je sais pas, hein?
Je verrais quand même un fit en plus.
Moi aussi. Hey, imagine Crosby dans cette défense.
Crosby, puis ils ont un autre jeune au bord. Excusez-moi, je me rappelle pas.
Ah oui, Tyree Wilson.
Ouais, Tyree Wilson.
Puis c'est même dans le centre, ils ont l'ancien des Dolphins.
Wilkins.
Ouais, Christian Wilkins.
Ça serait pas fou. Ouais. Puis les Raiders qui ont toujours pas d'être coach non plus. On n'entend pas beaucoup de rumeurs à cet effet-là.
Non. Ben, genre, ils étaient high on Ben Johnson.
Ok.
Ben là.
Puis là, ils ont tout récemment aussi engagé un nouveau GM. Là. Fait que
c'est vrai, c'est le gars de.
L'ancien des Bucks.
L'ancien des Bucks, c'est
ça. Fait que, évidemment, sûrement que Brady, il connaît bien.
Ouais, c'est vrai.
Ça doit être un de ses bons potes, d'après moi. Il était vice-président, assistant general manager jusqu'en 2003, avec les Bucks. Ben, depuis 2023 okay. avec les Bucks. Mm-hmm. Il était dans l'organisation depuis 2016. Mm-hmm. Fait que ça fait le tour, les gars, pour cette semaine. On avait reçu deux questions finalement à la dernière minute au buzzer. Fait que on va les passer. Donc la première question, c'est pour nous deux, je pense. C'est est-ce que Mark Andrews est washed? Ça lance, ça profite de l'absence de Monsieur Paco pour lancer les flèches.
C'est monac. On se le cachera pas, il a coûté la game. Vraiment sold.
Il a sold en sacrément.
C'est monac, mais.
Mais non, il est pas wash là.
Non, il est pas wash là. Puis en début de saison, il avait eu de la misère, mais en fin de saison, il était fort.
On s'était dit cette année. On s'était dit quand même. Hein. Puis il n'y en avait pas eu, genre, dans les 5 premiers matchs.
Dans les 5 premières semaines, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est quand même du lourd. Là.
Ouais.
Puis, non, il n'est pas wash.
Non.
Mais là, le monde va avoir la mèche courte avec lui l'an prochain. Hey, s'il drop un autre pass dans le touchdown, mon gars, il va se faire intimider en sacrifice. Je pense que le monde va comme lui laisser le bénéfice du doute parce qu'il a toujours été professionnel. Puis, un très bon joueur pour les Ravens.
Ouais.
Mais là, là dès que ça va se reproduire, là, ça va péter les plombs, là, j'ai l'impression. Là. Puis ensuite, c'est pas vraiment une question, mais je pense que c'est plus une prière qui veut que M. Hébert veut qu'on envoie, donc je vais l'aller rendre honte. Peut-être que Josh Allen écoute le podcast et pourra...
Un fan du tailgate?
Ouais, un nouveau fan du tailgate. Là. On va y envoyer par DM quand même. Fait que Josh, if you can hear me, please save us.
Save us, Josh Allen.
Save us, Josh Allen. Sacrément. Je t'aime bien, Simon, mais si je suis plus capable d'écrire de Chief au Super Bowl, hein. Fuck that shit. Fait que Monsieur Croteau, autre propos en fait la semaine prochaine, à part peut-être un fuck les Chiefs supplémentaire ou
fuck les Chiefs.
Fait que
on fuck les Birds aussi.
Hein. J'avoue hein.
Fuck les Birds.
On était
gentils
avec
Chiefs.
Les Birds aujourd'hui nous autres.
Mais les Bills puis les
Bills Commanders.
Bills Commanders, j'aimerais bien ça. Ouais, ça pour qui vrai. Tu prendrais Super Bowl entre les Eagles puis les Chiefs?
Oh!
C'est bon. Celle-là, hein?
Et si bon. J'écouterais pour Kendrick Lamar, puis ça serait tout. Hein.
Je prends pour les Chicken Wings.
Non, je pense que je prendrais quand même pour les Eagles.
Je sais pas. Ouais.
Mais non, je peux pas. Je peux pas répondre à ça. Ouais. En tout cas, les gars, ça a été mal plaisir. C'est assez. C'était mal fun de se parler encore de foot cette semaine, et on se voit au prochain épisode. Merci,
yo.
Salut.
Yo.